Au chapitre 7 de 2 Samuel, nous rencontrons le prophète Nathan. Il y a une discussion entre Nathan et David. David qui désire construire une maison pour Dieu. Dans les chapitres précédents, l'arche de l'Alliance est amenée à la cité de David. Et un tabernacle, une structure temporaire, une structure semblable à une tente, en fait, est construit pour abriter l'arche de l'Éternel. Pendant longtemps, le tabernacle était à Gabaon, selon 1 Chronique 21 et le verset 29. David, alors, depuis sa cité de David, regarde autour de lui et il considère ses propres demeures et il se rend compte que sa maison est bien plus luxueuse que le tabernacle pour l'arche de l'Alliance, siège pour la présence de Dieu. En fait, il semble avoir honte de ce déséquilibre entre ce qu'il a fait pour servir Dieu et ce qu'il a fait pour à peu près se servir lui-même. Il dit à Nathan qu'il voudrait construire une maison. Pas seulement une tente temporaire, mais une maison pour Dieu. Nathan ne voit rien de mal à cette idée, et puis il donne sa bénédiction à David, cette nuit-là. Quelques heures seulement après cette conversation, l'Éternel parle à Nathan, le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Il révèle à Nathan son intention de faire alliance avec David. Cela faisait longtemps que Samuel n'avait pas oint David pour être roi. C'était plusieurs années depuis, bien sûr, ce moment. Nous avons l'impression que Dieu a regardé en arrière sur toute la vie de David jusqu'à ce moment-là, ce moment présent. Alors Dieu travaillait avec David à chaque étape de sa vie. Il regardait David, il considérait David tout en étant un petit berger. Et puis il l'a choisi, il l'a guidé et il l'a protégé contre ses ennemis. Et en fait, pendant toute cette période de la vie de David, il y avait un développement en cours. Un développement de quelqu'un qui serait un jour capable de veiller sur toute la nation Israël, le peuple de Dieu, comme un berger veille sur ses troupeaux. Et à plusieurs reprises, nous voyons que David a employé les méthodes et les stratagèmes et les choses qu'il a appris en étant berger pour servir le peuple de Dieu. Tandis que l'Éternel permettait à David de s'élever au pouvoir et de devenir célèbre, c'est marqué, lui a fait un nom, un petit peu de renom pour David, même aux alentours d'Israël. Il aime éliminer également ceux qui pourraient faire du mal à Israël, à ce moment critique de son histoire. Et alors, il établissait, l'Éternel établissait pour Israël un point d'appui, un point d'appui auquel Israël pourrait toujours revenir, même après avoir été amené en captivité par les puissances étrangères, les pouvoirs autour d'eux. Dieu avait déjà un plan parfait dans tout cela, et il a choisi d'impliquer David dans ce plan d'une manière très particulière à ce moment spécial de l'histoire. En fait, ce n'était pas Dieu qui avait besoin d'un logis, d'une maison, n'est-ce pas? Dieu n'avait pas besoin d'un bâtiment. Il n'avait pas besoin qu'une maison soit construite pour lui. C'est un homme, en fait. Ce sont nous, les hommes, les femmes, qui ont besoin d'un foyer, d'une maison. Et c'est nous qui avons besoin d'un point de repère, un point d'appui pour toujours, à la fin de la journée, revenir et on est entre familles dans notre propre maison et on est dans notre foyer familial. C'est quelque chose que nous apprécions en étant humains. Mais Dieu a dit à plusieurs reprises qu'il n'en a pas besoin. En fait, l'homme, et c'est l'homme qui a besoin d'un point d'ancrage. C'est vrai pour une famille, c'est vrai pour une maison, un endroit, et puis un endroit pour grandir, pour servir, pour apprendre, pour être confortable, à l'aise, se détendre, même dormir. Le peuple de Dieu, cette nation naissante, recevait un endroit où grandir. C'était l'héritage qu'ils ont reçu de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette nation son territoire, sa paix et d'autres choses. Quand il s'agit de la nation spirituelle aujourd'hui d'Israël, l'Église de Dieu, à notre époque, les fêtes de l'Éternel nous fournissent un point d'appui pour chaque année et tout le long de l'année, n'est-ce pas? Les fêtes de l'Éternel, plus qu'un bâtiment, plus qu'une salle, plus que nos environs, les fêtes de l'Éternel nous donnent un point de repère, n'est-ce pas? Des idées auxquelles nous pouvons revenir chaque année pour être ancrés dans ce cycle annuel et dans le plan de salut aussi. Ces fêtes de l'Éternel nous fournissent des leçons sur lesquelles nous pouvons revenir chaque année. Et alors, chaque année, Dieu nous ramène à ces leçons, ces mêmes leçons, dans un cycle déjà prévu par les fêtes de l'Éternel. Il nous enseigne à propos de son plan de salut parfait pour toute l'humanité. Sans ce point de repère, ne serions-nous pas bientôt égarés, nous égarant dans nos propres pensées, nos propres idées, nos propres doctrines et des différentes choses? Sans ce point d'ancrage annuel, que deviendrait l'Église? Dans un sens, c'est exactement ce qui s'est produit depuis 2000 ans, depuis le temps de Jésus-Christ. Il a vécu sur la terre. Il y a beaucoup de croyances dans le monde. Il y a beaucoup d'erreurs aussi. Il y a pas mal de directions différentes dans lesquelles les gens vont quand ils ne reviennent pas à la Bible et aux enseignements de base de la loi de Dieu que Dieu leur révèle à travers les Écritures, à travers le cycle annuel des fêtes de l'Éternel aussi. Dieu peut nous révéler la vérité, mais l'homme est toujours capable de s'écarter de cette vérité pour diverses raisons. Nous devons revenir alors à ce processus annuel. Nous devons comprendre que le plan de Dieu ne concerne pas seulement un individu. Il s'agit du monde entier et personne n'est exclu de ce plan. C'est ce qui est génial avec les jours saints. Ils élargissent notre compréhension et notre perspective du plan de Dieu pour toute l'humanité. Nous pourrions simplement passer tout notre temps fixé sur nous-mêmes, n'est-ce pas? L'homme est comme ça, un peu égoïste. C'est Dieu qui nous ouvre l'esprit de faire pour les autres, de servir, de penser, d'avoir cette attitude. Nous pourrions nous concentrer alors sur simplement notre propre salut. Mais nous devons avoir une vision plus large, frères et sœurs. David avait une vision plus large que la simple protection de sa propre vie, n'est-ce pas? David s'est trouvé dans plusieurs reprises dans des situations très difficiles. Plusieurs allaient poursuivre David, chercher à mettre David à la mort pour que David ne soit pas capable de monter au pouvoir. Mais David gardait toujours cette vision plus large. Et en particulier, David ne jamais David cessait à penser à l'Éternel dans ses problèmes, dans ses jours de problèmes. David a mis sa propre vie en péril pour servir Dieu, pour servir le peuple de Dieu, ses sujets. Il avait une si grande vision qu'il voulait construire quelque chose pour Dieu. Il lui est venu à l'esprit, « Je voudrais faire quelque chose pour Dieu, pour l'Éternel. Je voudrais construire même quelque chose. » Nous, est-ce que nous avons eu ces mêmes réflexions? Je voudrais servir dans une façon différente. Je voudrais faire quelque chose, pas pour moi, mais pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit de construire quelque chose pour Dieu? Peut-être. C'est ce que j'ai entendu cette semaine dans un sens de Monsieur Franz. Sur le à propos en anglais, il a mentionné que nous allons peut-être considérer la construction d'un auditorium qui servirait à côté du bureau central pour accueillir la congrégation à Dallas et pour l'éducation dans l'Église. Donc c'est intéressant que l'administration en ce moment considère au moins l'idée de construire quelque chose. Et je me souviens des propos de Monsieur Franz. Il a dit, c'est toujours facile à attendre plus loin, plus longtemps. Mais pour nous, on va voir, on va prier, on va voir si c'est le moment pour construire maintenant. Dans le même sens, David avait une vision. Il avait une vision pour accomplir quelque chose de spécial pour Dieu. Dans un sens, il se disait, je voudrais mettre Dieu dans une place spéciale dans cette nation, que je gouverne. Il aurait pu choisir, si vous voulez, entre 1000 dieux païens différents, des pratiques païennes. Il aurait pu choisir des différentes pratiques. Il y en avait tout autour d'eux. Il aurait pu prendre des idées des Philistins, des idées des Jébusiens, des Amalécites, des Hivites aussi. Chacun avait ses propres pratiques religieuses. Il aurait pu choisir n'importe laquelle de ces nations à copier, à imiter. Il aurait pu copier leurs traditions, leur mode de vie. Il aurait pu apporter plus de notoriété à Israël en s'associant avec une nation plus puissante. Le syncrétisme aurait pu être le choix de David pour mêler les croyances d'Israël avec les croyances des nations païennes. Ça allait venir quelques générations après. Mais David ne voulait pas faire ça. Il ne voulait pas faire ça. Il a vu le seul vrai Dieu comme le Très-Haut sur toute la terre, comme Psaume chapitre 7 et le verset 18 nous dit, « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. » Et à plusieurs reprises aussi, David, dans les psaumes, souligne l'importance du Très-Haut. Lorsque l'Éternel a parlé à Nathan, cette nuit-là, il a non seulement conclu une alliance avec le roi David, mais il a également élargi son alliance qui existait déjà avec Abraham. C'était l'alliance qui a été élargie jusqu'à aujourd'hui dans la nouvelle alliance qui nous concerne tous. L'alliance que Dieu faisait avec David, regardez en arrière et regardez en avant. À cette période de l'année, nous sommes également en train de regarder en arrière et de regarder en avant, vers l'avenir. Nous considérons l'alliance que Dieu a faite avec nous. À cette époque de l'année, alors que nous approchons de la Pâque et de la fête des pains sans levain, nous sommes plus conscients que jamais de notre besoin de Dieu. On continue. Notre besoin de son instruction, de ses bénédictions, de son pardon. Nous avons encore beaucoup à apprendre de lui. Je dirais qu'il y a plus à apprendre que toute une vie d'apprentissage ne pourrait nous apporter. Nous pourrions passer notre vie entière à apprendre et ne jamais tout apprendre concernant Dieu. Nous prions pour que Dieu continue à travailler avec nous cette année à venir, malgré nos lacunes, nos erreurs, nos faiblesses. Nous considérons la place de Dieu dans nos vies. Avons-nous placé Dieu dans une tente à côté, à l'extérieur? Ou avons-nous construit quelque chose? Permettons-nous à Dieu de venir vivre et demeurer dans nos cœurs par la puissance de son esprit? Il y a un grand parallèle entre l'idée de construire un temple spécial pour Dieu, pour garder l'Arche de l'Alliance, ou, si on prend de l'autre côté, le garder dans une tente à côté. Il y a un grand parallèle entre cette illustration et notre attitude pour trouver, pour mettre Dieu dans une place spéciale dans nos vies. En premier, pas deuxième, pas troisième, pas quatrième. Nous regardons alors en arrière sur une année écoulée, en étant membre du corps de Christ, et nous nous demandons si nous avons grandi. C'est quelque chose que nous faisons en ce moment, quand on s'approche à la Pâque. Alors, est-ce que notre réponse est « oui, tout va bien, et j'ai » ou est-ce que c'est « et j'ai produit beaucoup de fruits et je grandis » Est-ce que je suis mieux équipé aujourd'hui pour le royaume de Dieu que je l'étais à cette époque de l'année dernière? Ai-je fait bon usage de mon temps? Oui, c'est un moment qui devrait impliquer beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation. On élimine le levain physique de nos demeures dans les prochaines semaines, pour renforcer la diligence avec laquelle nous devrions ôter le péché de nos vies. Nous purifions ce temple pour l'Esprit de Dieu. Nous nettoyons cet endroit, nos cœurs, en nous où Dieu interagit, inspire et communie avec nous. Par conséquent, nous sommes constamment dans ce processus de repentir. Comme Paul l'a dit, nous cherchons à marcher en nouveauté de vie. Il y a tellement plus à cette période de l'année qu'un rappel simplement de se repentir. Nous ne sommes pas seulement ici pour qu'on nous rappelle de nous repentir. Cela arrive aux gens et Dieu nous permet de revenir à lui si on est égaré. Il l'a fait aussi avec Israël tout au long de son histoire. Nous avons l'exemple de ce départ et la miséricorde de Dieu vis-à-vis son peuple. Alors, à ce moment-là, on nous rappelle une alliance, un accord, quelque chose de très profond. On nous rappelle non seulement notre part, mais aussi l'autre côté de l'alliance dans ce moment de l'année. Ce que Dieu a donné pour faire alliance avec nous, pour se préparer à ce que cette alliance soit possible pour nous, nous qui étions des pécheurs. Alors, il a donné la vie de son Fils unique qui est mort pour nous, afin que nous pourrions avoir accès à la vie éternelle. Alors, à l'approche de la Pâque, il est important de se souvenir des deux côtés de l'alliance que nous avons avec Dieu. Ce n'est pas juste un rappel. Oh, je dois me repentir avant la Pâque. Ça devrait être une habitude chaque semaine, chaque jour. Alors, à un niveau plus profond, à un niveau plus grand, en considérant toute notre vie, toute notre alliance avec Dieu, le baptême, le processus de la conversion, la croissance. Où allons-nous? Sommes-nous sur le chemin qui mène à la vie? Suivons-nous les traces du Christ? Mettons-nous son esprit à notre esprit? Parce que c'est un accord comme aucun autre accord que nous pourrions jamais conclure nous-mêmes. C'est Dieu qui a agi pour nous appeler. C'est un miracle. Alors nous avons maintenant consacré nos vies à Dieu et chaque année, nous revenons à ce point de repère et nous nous souvenons que Jésus-Christ a donné sa vie pour ses disciples, pour nous. Alors, le mot « hesed » en hébreu est employé plusieurs fois dans la Bible en ce qui concerne les alliances. Une définition simple de « hesed », c'est la fidélité à l'alliance. C'est intéressant. La fidélité à l'alliance. Et c'est ça le titre de ce serment aujourd'hui. La fidélité à l'alliance. Juste pour être très simple, on peut simplement dire la fidélité à l'alliance. Ça explique bien ce mot, hesed. Cela nous rappelle l'intention de Dieu de respecter toutes ses alliances. Cela nous rappelle que Dieu gardera toujours son alliance, même si nous sommes égarés. Sommes-nous en train de développer cette hesed de notre côté de l'alliance? C'est ça la question peut-être plus profonde de cette période de l'année. Ça va peut-être plus profond que simplement se dire « Où est-ce que je dois changer ?» C'est un contexte qui devrait nous motiver à poser cette question. Parce que si nous comprenons les deux côtés, alors nous allons avoir une meilleure motivation dans les semaines à venir pour entamer ce dépoussièrement et enlever le péché de nos vies. Donc, juste pour donner un exemple, lorsque nous posons cette question, alors comment allons-nous cette année à ce point de repère, alors que nous approchons de la Pâque, on peut simplement dire que des fois notre réponse serait « je vais bien, ça va bien » ou « je pourrais faire mieux ». Ce sont peut-être des bonnes réponses, mais je crois qu'elles ne sont pas en train d'aborder la profondeur de cette fidélité à l'Alliance, ce hesed de tout ce qui est impliqué dans le sacrifice de Jésus-Christ, sa vie donnée pour nous, sa résurrection. Alors, l'idée de donner cette opportunité à nous. Et puis, notre appel est cette merveilleuse opportunité de participer à son Église et devenir des prémices. Je crois que je pourrais faire mieux n'atteint pas le niveau de profondeur que Dieu attend de nous. Nous devons creuser plus profondément pendant cette période. Nous devons examiner une évaluation de nos vies. Nous devons prendre le temps pour développer cela, pour méditer là-dessus, pour se poser plusieurs questions. Ce que nous devrions vraiment faire, c'est développer une réponse qui prendrait en compte notre engagement envers Dieu et notre désir de lui plaire. David est un excellent exemple d'homme selon le cœur de Dieu. Il était et cherchait le cœur de Dieu. Si nous croyons vraiment que nous sommes en train de chercher de plaire à Dieu, de chercher le cœur de Dieu, alors nous frappons sur les bonnes notes, nous faisons la bonne chose. Parce que c'est ça que nous voudrions réellement, de notre côté de l'Alliance. La Bible nous enseigne que Dieu est content quand il considère nos cœurs et il voit quoi? Un cœur contrit, un esprit brisé, ça fait plaisir à Dieu. Lorsque Paul a écrit à Corinthe au sujet de la conduite à la Pâque, il ne parlait pas simplement du comportement extérieur, il parlait beaucoup plus profondément. Cette attitude qui est le reflet de la motivation intérieure, le reflet de ce hesed, cette fidélité à l'Alliance en nous. Alors Dieu est content quand il voit que nous voudrions honorer et obéir à lui. Alors aujourd'hui, considérons la fidélité à l'Alliance des deux côtés, le côté de l'homme et le côté de Dieu. Examinons d'abord plus profondément l'exemple de David qui nous enseigne comment il avait besoin dans son cœur de faire plaisir à Dieu. Alors, revenons à 2 Samuel, chapitre 7. Rappelez-vous, dans ce cas, que David n'était pas à l'aise de laisser l'arche de l'Alliance dans une tente. David a médité sur ce que lui pouvait faire pour plaire à Dieu, et il désirait construire une maison pour Dieu. C'était un désir. C'était pas juste une pensée, et puis passer à autre chose. Ça a dû vraiment frapper son émotion, sa pensée. Il était vraiment concerné par cette idée. Jusqu'à ce point d'aller parler avec Nathan là-dessus. Ceci dans 2 Samuel 7 met l'accent sur ce choix de Dieu de faire alliance avec David. Dieu a choisi David. Pas vraiment dans l'autre sens, mais David a choisi à obéir à Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Alors, on peut commencer où David est avec Nathan. 2 Samuel, je dois m'en rappeler. 2 Samuel 7, à partir du verset 4. Samuel 7, et le verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? On peut voir que ce n'était pas une préoccupation de Dieu d'avoir une maison. C'était le cœur de David, c'était la volonté de David. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Le cœur de la vie de David était à la bonne place. Nous pouvons avoir une idée, si nous parcourons les psaumes, de comment David priait Dieu, de comment les questions, les plaintes des fois, les idées, les réflexions de David. Est-ce que nos réflexions, nos méditations viennent jusqu'à ce point de profondeur? Dans les psaumes, on voit beaucoup la profondeur de la pensée de David. Il mentionne à plusieurs reprises son désir de plaire à Dieu. Et il demande à Dieu à plusieurs reprises à s'impliquer dans sa vie, à faire quelque chose, à délivrer sa vie aussi. Donc c'est clair que David a mis Dieu en premier dans toutes ces situations différentes. Normalement, notre logique ne s'harmonise pas vraiment avec celle de David. Tout le monde ne se rend pas compte que notre nature est de penser autrement. De penser autrement comme « j'ai fait ceci, j'espère que Dieu sera content » ou « j'ai mal agi et j'espère que Dieu me pardonnera ». C'est souvent la réflexion humaine. C'est « on agit » et puis on se demande « est-ce que c'était OK? Est-ce que j'ai bien fait? Ou est-ce que j'ai fait du mal ?» Non, mais David procédait d'une façon différente. David procédait dans une façon qui disait à Dieu « si je fais cela, serais-tu content de moi? Si je fais ceci, est-ce que ça te fera plaisir ?» C'était comme ça que David procédait. Il demandait à Dieu en avant. Il demandait à Dieu d'être impliqué dans ses choix, par chaque étape. Nous voyons que Dieu était en fait impliqué. Nous apprenons que Dieu ne voulait pas que David construise cette maison. Une réponse un peu surprenante, n'est-ce pas? Avec ce cœur dévoué à Dieu, n'est-ce pas? C'est pas une bonne chose que Dieu l'accepte comme cadeau, comme... Ça nous démontre la sagesse de Dieu, la profondeur de Dieu. David savait ce que lui voulait faire, et puis quand Dieu a répondu en disant non, ça ne sera pas toi, David a quand même compris. Mais dans les deux cas, Dieu a choisi de faire alliance avec David. Même si David n'était pas celui qui allait bâtir la maison, il allait faire des préparations et il allait entrer en alliance avec Dieu. Un peu plus loin, dans le verset 9 de Samuel 7 et le verset 9, on voit juste un peu loin, un peu plus loin. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Verset 10, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment pas plus comme auparavant. Alors, est-ce que Dieu accepte ce don de David? Il va nous montrer au verset 11 ce qu'il a en réserve pour David. Au verset 11, nous avons dans ce verset le mot hébreu pour maison utilisé. Ça peut être dans deux façons. Maison dans un sens d'un bâtiment ou maison dans un sens d'une famille aussi. Verset 11, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. C'était une grande promesse de créer une maison pour lui. Est-ce que vous vous souvenez des propos de Samuel quand Saül n'a pas agi de façon correcte? Samuel a dit que l'Éternel ne te fera pas une maison. Il va t'abandonner ta maison. Ta maison ne va pas continuer à paître le peuple d'Israël. C'est David qui a été choisi pour remplacer Saül. Donc, un peu plus loin, c'est comme si David a essayé de donner à Dieu et Dieu lui donne encore plus en réponse. Verset 13, quand tes jours, je continue dans ma Bible, quand tes jours, verset 13, seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, tu vas mourir, c'est ça. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Voilà, de génération en génération, nous avons Dieu qui pourvoit pour le peuple d'Israël. Nous avons tous compris que c'est Salomon qui a construit la maison pour l'Éternel. Est-ce que c'était ça qui est toujours en Israël, bien bâti, toujours en place? Malheureusement, non. Cette maison n'est plus. Cette maison, ce temple n'existe plus. Ça a été détruit à plusieurs reprises, en fait. Reconstruit, détruit de nouveau. Donc, est-ce que c'est ça que Dieu allait préserver pour David, pour Salomon et pour ses descendants? Non, ce n'est pas la maison que l'homme allait construire qui a été préservée, non. Mais c'est Dieu qui a agi pour faire de cette famille, une maison, une nation, une descendance. Donc, pendant ce temps, entre cette annonce ici, cette alliance avec David et son décès, David s'est préparé pour le futur, pour la construction. Il a fait beaucoup de préparations. Et au fil du temps, même si Salomon avait construit cette glorieuse maison de Dieu, et qu'elle était très célébrée, comme je vous ai dit, elle a été finalement perdue. Même avant ça, elle avait perdu son importance aux yeux d'Israël, n'est-ce pas? Il y a seulement quelques générations, les gens observent la loi, et puis alors, Ils avaient oublié la loi de Dieu. Alors la maison de Dieu a perdu son importance aux yeux d'Israël. Il a été profané aussi. C'est devenu un endroit où vous ne voudriez pas aller. Un endroit où j'amènerai pas mes enfants. Il y avait des choses qui se passaient dans cet endroit qui était au tout départ réservé pour Dieu. Pourquoi? Une grande raison, c'est l'idolâtrie. Et à quoi pensons-nous vraiment quand nous pensons à l'idolâtrie dans la vie chrétienne? L'idolâtrie aujourd'hui, mais quelque chose entre nous et Dieu. Quand on met quelque chose au-dessus de notre relation avec Dieu en importance. Quand on met Dieu en deuxième, en troisième, en quatrième, un peu plus loin, dans une tente, dans le jardin, où on va aller voir de temps en temps. Est-ce que c'est ça, le placement que Dieu a pris dans notre vie? J'espère que non. On peut simplement dire, nous allons très bien, tout va bien, j'ai mon petit tabernacle pour Dieu à l'extérieur. Non. Ce n'est pas ça que Dieu voudrait de nous. Nous avons, dans ce sens, à renouveler notre premier amour. Nous avons besoin que notre désir soit renouvelé. Et pour impliquer Dieu dans tous les aspects de nos vies. C'est ça la signification de ce temps. Malheureusement pour Israël, des temps très difficiles sont arrivés, jusqu'à l'esclavage, la destruction de Jérusalem et tout. À l'époque du règne du roi Josias, la maison de Dieu avait été profanée, non par des puissances étrangères, non, mais par le peuple de Dieu, par le peuple de l'Alliance. Cette maison était devenue profanée. Salomon n'a pas aidé les choses, hein. C'est certain que Salomon s'est marié avec plusieurs femmes étrangères. Il avait accueilli leur tradition, leur religion, d'entrer en Israël, et ses descendants aussi. Mais comme nous le savons, Dieu n'a pas rompu sa part de l'alliance. De son côté, il a respecté son alliance. Alors, quand les gens se sont vraiment retournés vers lui, il était là pour eux, comme s'il l'attendait à côté pour que eux, ils agissent, pour qu'ils le trouvent, pour qu'ils le retrouvent, pour qu'ils renouvellent cette relation. Considérons maintenant 2 Rois 23. Dans 2 Rois 23, je crois que ce récit est une grande leçon pour nous concernant la préparation de la Pâque et l'idée de cet renouvellement de l'Alliance. 2 Rois 23. Nous parlons de la fidélité à l'Alliance. Si jamais nous nous trouvons à nous écarter de notre part de l'Alliance, nous devons revenir et renouveler notre engagement envers Dieu. Le renouvellement de l'Alliance n'est pas juste une question de changer un petit peu le comportement. Ah, j'ai fait une erreur. Non, c'est plus profond. C'est vraiment un renouvellement profond de l'alliance que nous avons avec Dieu. Donc, sous le règne de Josias, il y avait un véritable ménage à faire. Un véritable ménage à faire. Comme nous allons faire pendant cette période. On va faire le ménage chez nous, n'est-ce pas? À la fois dans la maison, à la fois à l'intérieur. Combien d'entre vous ont nettoyé vos maisons l'année dernière, pendant cette période, avant la Pâque? Je sais que nous avons tous participé à ça. Est-ce que vous avez choisi de sortir votre aspirateur pour mettre l'accessoire là-dessus, qui est vrai, le tuyau très, très mince pour atteindre les petits objets qui se trouvent entre les coussins ici et là? On va à la chasse de la poussière, n'est-ce pas, des fois. Et des fois, on est surpris de ce qu'on trouve là-dedans. En particulier quand on a des enfants, ça peut nous surprendre. Alors, ça, c'est notre exemple de notre côté de ménage à faire. Mais de leur côté, qu'est-ce qui s'est passé ici avec le temple, avec Josias ici. On va considérer ça plus profondément. En fait, nous participons à un certain ménage, un nettoiement. Maintenant, reportons-nous à 2 Rois 23. Nous pouvons glaner des leçons de cette histoire ici. Alors, 2 Rois 23. Le roi Josias fit Satan assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Ah, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer que peut-être dans 50 ans d'ici, imaginons d'ici 50 ans, il y a une assemblée qui a lieu ici, à Saint-Marc, mais on ne cite pas la Bible. On n'a pas une idée de ce que c'est la Bible. On n'a pas vu de Bible depuis, 30, 40, 50 ans. Mais on a quand même une assemblée. Mais on ne s'appuie pas sur la Bible. Mais on dit, les gens qui seraient là d'ici 50 ans, on se dit, on est là pour louer Dieu, pour louer quelque chose, pour louer. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée de ce qui se passait à l'époque de Josias. Les gens avaient une religion, mais ils n'avaient pas du tout une idée de la loi de Dieu. Ils avaient perdu complètement la signification de la loi de Dieu. Ils avaient perdu leur point de repère, comme nous pourrions en faire aussi, si on s'éloigne de ces points de repère que Dieu nous donne. Et donc alors, c'est comme si dans 50 ans d'ici, les gens se présentent ici à Saint-Marc et quelqu'un fouille un petit peu là derrière. Il dit, « Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Il y a un livre là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est marqué la Bible. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » C'est un peu ça qui s'est passé. « C'est un livre, c'est la Bible. Ah, il y a des choses de déclarer là-dedans. Ah oui, c'est ce livre qui parle de nos ancêtres, où Dieu donne sa loi. » À nos ancêtres. C'est ce que j'imagine, si je peux imaginer, c'est ce que j'imagine s'est passé au début de 2 Rois 23. C'est l'idée que eux, ils étaient perdus. Et après, il y avait, on peut remonter au chapitre 22, verset 8, chapitre 2 Rois 22, verset 8. Le souverain sacrificateur dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et puis après, ils ont donné le livre, ils ont passé ça tout autour. Et puis, ils ont recommencé l'ouvrage. Verset 11, « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Akrim, fils de Charlem, à Akbor, fils de Meshé, et puis tout ça. Verset 13, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » C'est totalement oublié, totalement oublié. Et puis, il retrouve le livre de la loi. Et puis, c'est Josias qui dit, « Ok, on va s'en servir de ce livre. » Il amena tout le monde avec lui. Il lut à leur écoute toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison de l'Éternel. Dans leur rassemblement, ils ont tous entendu les mêmes mots. Ils ont tous entendu la parole de l'Éternel et ça l'a touché, ça a coupé jusqu'au cœur. Intéressant. Intéressant aussi que Dieu, quand cette loi a été lue, verset 3, 2 Rois 23, verset 3, le roi se tenait sur l'estrade et il traita l'alliance avec l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Wow! Pour moi, c'est le point culminant de cette histoire. C'était coupé jusqu'au cœur, c'était une alliance, c'était un engagement profond. Est-ce que notre renouvellement chaque année est aussi profond que ça? Je sais que nous ne nous égarons pas jusqu'à ce point-là, mais nous sommes censés de considérer cette profondeur de cette alliance avec Dieu. De notre côté, et en considérant avec amour son côté aussi. Suivre l'Éternel, garder, observer avec tout notre cœur. Ça me fait penser à Deutéronome. Tout le cœur, tout l'esprit, toute la force. Puis, ils ont tous pris cet engagement, tous ensemble. Et c'était avant le nettoyage qui a eu lieu en Israël. Ils ont pris engagement avant de commencer le nettoyage, si vous voulez. Et quand on discute ce nettoyage, c'est un nettoyage profond. C'est un nettoyage très profond, très zélé. Considérons versets 4 et 5 ici. Considérons la profondeur de ce nettoyage d'Israël. Le roi ordonna à Hilkijah, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Vous voulez même pas que la poussière reste en place. Ils ont fait porter la poussière juste à Bethel. Et puis, verset 5, il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Donc encore une fois, ils se sont éloignés très loin, n'est-ce pas? Ils se servaient même de la maison que David voulait construire, et ils sont servis de cette maison pour louer ces choses. Donc non seulement il a sorti les idoles, mais les prêtres aussi, ceux qui enseignaient ces fausses choses, ces faussetés. Il s'est débarrassé du faux enseignement, de l'enseignement qui trempait les gens, les prêtres idolâtres qui étaient entrés et avaient corrompu le lieu d'adoration de Dieu. La maison de Dieu que David cherchait à bâtir était devenu corrompu, et Josias voulait renouveler, voulait nettoyer pour recommencer à zéro. Nous voyons alors qu'il s'agissait d'un effort collectif de tout le peuple. Ça devrait être un bon rappel pour nous. C'est un effort collectif. Si nous, chacun d'entre nous, participe à cet effort, on va tous bénéficier encore davantage de cet effort, n'est-ce pas? Le nettoyage que moi je fais pour moi, ça a un impact sur vous. Le nettoyage que vous, vous faites pour vous, il a un impact sur moi. Normalement, c'est bénéfique. C'est quelque chose qu'on peut aimer, qu'on peut profiter, qu'on peut avoir, on peut se trouver très heureux après ça. Donc, c'est une implication de tous. Nous, aujourd'hui, nous préparons l'épouse pour Jésus-Christ. une épouse chaste, une épouse sans tache. De l'autre côté de l'Alliance, nous voyons que Dieu travaille avec nous collectivement aussi. Tout comme il a toujours travaillé avec un restant de son peuple, il nous a amenés de nulle part, de si loin, et il a montré sa miséricorde envers nous. Nous pouvons apprendre de ce nettoyage en profondeur à l'époque de Josias. Nous nous rappelons la diligence nécessaire pour éliminer le péché de nos vies. C'est probablement l'effort de dépoussièrement le plus efficace jamais enregistré au moins. Ce n'était pas simplement suffisant de sauver un peu de l'or pour le réutiliser, sauver un peu de l'architecture, le travail en pierre pour qu'on reconstruise quelque chose. Non. Ils ont bouleversé ces choses. Ils ont brûlé ces choses. On descend jusqu'au verset 12. Le verset 12 ici. Considérant cela. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz et que les rois de Juda avaient fait et les autels qui avaient fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron, ça veut dire dans la rivière. Il voulait que la rivière éloigne ses poussières de lui, de sa nation. C'est quand même profond, hein? C'est zélé, cet engagement ici. Ça devrait nous inspirer, cette zèle. Cela ne s'est pas arrêté là non plus, frères et sœurs. Verset 15, un peu plus loin. Verset 15. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nabath, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et il brûla l'idole. Verset 16, Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoyé prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. C'est une référence de 1 roi 8, quand l'homme de Dieu a prophétisé ces choses. Ou un roi 13, c'est ça, un roi 13. C'est intéressant, parce que si vous êtes déjà allé en Europe, si vous êtes allé à Rome en particulier, vous aurez vu que dans le passé, dans le 1er, 3e, 15e, dans le siècle moderne, les gens se servent des anciens bâtiments pour reconstruire de nouveaux bâtiments. Ils ont même piqué beaucoup de choses de la Colossée, hein, pour construire des petites maisons, des bâtiments dans le passé. Les gens piquaient les matières. Mais les choses qui m'ont étonné le plus quand je suis allé au forum, c'est que on voit une église, un bâtiment, et c'est construit à l'intérieur d'un temple païen. Et avec les mêmes roches, les mêmes ingrédients, ils avaient reconstruit des églises sur des temples païens. Vous pouvez vérifier, c'est intéressant de le voir. Sur la base, dans ces colonnes, à l'intérieur, il y a des églises. Ça dit beaucoup, n'est-ce pas? Ça explique beaucoup que la religion, qu'on appelle le christianisme d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui mélange, n'est-ce pas? Ça mélange les pratiques païennes avec la vérité. Tout est confondu, tout comme les roches, tout comme les matières de construction sont confondues à Rome. Donc, il y a aussi des ossements dans les églises en Europe. Les ossements, hein, des reliques qui sont là, souvent sont dans une petite boîte d'or. Et les gens vont louer ces choses, vont prier ces choses, ces ossements entre guillemets, saint. Ça répond exactement à ce que nous lisons ici. C'est pour ça que Josias ne voulait pas que ses ossements restent. Il voulait les enlever. Tout ça, c'est un syncrétisme avec les pratiques païennes. Très intéressant, car plusieurs endroits dans la Bible disent que Dieu ne peut pas accepter ce type de louange. Dieu ne veut pas accepter un mélange. Il voudrait que nous trouvions la vérité, pas un mélange, pas un buffet que nous prenons pour nous-mêmes. Donc l'idolâtrie était fort, mais ce nettoyage était fort et zélé aussi. Alors Dieu a apprécié les efforts de David et de Salomon, c'est sûr. C'est-à-dire que Dieu n'est pas réduit à une petite idole, mais il a accepté le fait que Salomon construise une maison pour son demeure. Dieu n'est pas dans une rivière, Dieu n'est pas dans un arbre, comme les païens disent, Dieu n'est pas le soleil ou le ciel. Ce sont toutes des choses qui ont été créées par Dieu. Le Dieu que nous adorons est illimité, tout puissant. Et puis, nous voyons que Dieu aimerait demeurer avec nous ici, tout au long de notre vie. Et nous lisons ces choses dans le Nouveau Testament aussi, dans les Évangiles. Nous voyons que Dieu cherche aujourd'hui à créer un demeure en nous, pour habiter, pour travailler avec nous par la puissance de son esprit. Travaillons-nous à préparer la place pour l'esprit de Dieu d'une façon zélée. Les projets de construction peuvent durer longtemps et ils peuvent également être mis en attente. Mais sommes-nous en train de suspendre le projet de construction que Dieu fait en nous? Si nous ne nous engageons pas à ce que Dieu travaille en nous, alors ce projet peut être suspendu. C'est nous qui pouvons dire « je suis pas prêt à m'engager jusqu'à ce point-là ». Si nous sommes vraiment engagés, cependant, nous pouvons regarder d'une année à l'autre un progrès. Cela amène la réponse de David. La réponse de David, c'est une réponse géniale. C'est dans 2 Samuel 7, pour revenir là où on a commencé. Cette réponse est très intéressante. Juste après avoir fait cette alliance avec David et cette offre d'établir une maison pour David, juste après, nous voyons la réponse de David. 2 Samuel 7 et le verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur l'Éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Peut-être que David est sorti dans cette tente quand il a prononcé ces paroles. Il a dit, « Qui suis-je? » Et puis, on continue. Verset 19, « C'est encore peu. » De choses à tes yeux, Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu dignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Verset 20. Que pourrais-te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. C'est intéressant, ça continue verset 23. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur en faveur de ton pays des miracles et des prodiges en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Et finalement, verset 24, tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. David était très humble, il était reconnaissant envers Dieu. Il a pu voir la magnifique bénédiction, la continuation de cette relation avec son peuple. Donc, une partie de notre travail dans l'Église de Dieu devrait peut-être transmise d'une génération à une autre. Nous ne pouvons pas tout accomplir, mais nous préparons la génération montante. C'est la même chose que David a fait pour son fils Salomon. Il a fait des préparations pour que la construction de ce demeure pour Dieu se passe bien. Alors, nous, aujourd'hui, nous entrons dans cette période de préparation, la préparation pour la Pâque et le début de ce cycle annuel. Est-ce que nous sommes zélés? Est-ce que nous sommes en train de méditer tout ce que Dieu fait pour nous? J'espère que oui. J'espère que cette période de préparation sera motivée par un engagement, par même une fidélité envers Dieu et son alliance avec nous. J'espère que nous apprécions tous le fait que c'est Dieu qui a décidé d'intervenir pour nous appeler et maintenant pour nous préparer, tous ensemble et comme des individus également, pour faire partie de cette alliance avec Dieu, pour faire partie de sa famille. Alors que nous préparons pour la Pâque, souvenons-nous de notre alliance, notre fidélité envers Dieu.